Florent Crouy, bonjour.
Bonjour.
Procureur du parquet de Gap. Vous avez un peu rénové la façon de voir un procureur, notamment sur les réseaux sociaux. On peut vous suivre. J'allais dire, c'est presque du droit, avant la nuit du droit. Ce sera la semaine prochaine. Parce qu'on vous voit, par exemple, sur votre vélo, avant le Tour de France. On vous voit aussi avec vos substituts en montagne. Vous l'avez dit, dès que vous avez pris votre fonction, moi je veux être au plus près des gens, c'est-à-dire non pas dans mon bureau mais à l'extérieur. Vous continuez encore aujourd'hui?
Je continue à être sur le terrain, c'est ce qui me plaît. Moi, la beauté d'un métier de procureur de la République, c'est pas être dans son bureau et dans sa tour d'ivoire, c'est être au contact de la population, des justiciables, des Hauts-Alpins, et pour essayer aussi de prendre la température de comment est vue la justice. Et je trouve qu'on s'enrichit vraiment de ces rencontres qui sont parfois informelles et pas toujours institutionnalisées. Et on tire une grande richesse. Et moi, j'aspire vraiment à être au cœur de la cité. Et c'est vraiment la beauté de notre métier.
L'un des gros dossiers cette semaine, c'est cette saisie de 19 kilos de résine de cannabis, saisie par la douane à La Saulce, un Espagnol d'une trentaine d'années qui comparaîtra fin octobre. Les Hautes-Alpes, c'est quoi aujourd'hui? C'est une plaque tournante de la drogue? C'est un lieu où ça transite? C'est un lieu de consommation?
Alors, c'est d'abord un lieu de consommation. Et aujourd'hui, il n'y a aucune ville, aucune commune qui n'échappe à la consommation de produits stupéfiants. Tous les produits stupéfiants, et avec une grosse, bien évidemment, circulation de l'herbe de cannabis et de la résine. On reste sur des consommations plus exceptionnelles de cocaïne et héroïne, mais on en trouve aussi dans le département, pas dans des réseaux structurés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment de demander des réseaux, des trafics, de donner des réponses pénales aux vendeurs et aux consommateurs, et d'appréhender, quand c'est possible, comme lundi, des grosses quantités.
Vous le disiez, pour ce qui est cocaïne, ça n'est pas forcément organisé. Cannabis, ça l'est aujourd'hui. Ce sont des réseaux qui sont dans les Hautes-Alpes ou qui viennent d'ailleurs, Marseille, Grenoble, Italie.
On a d'abord des Hauts-Alpins qui tirent un gros bénéfice de ces ventes et donc ils s'organisent. Alors plutôt dans les plus grandes villes du département que dans les plus petites, puisque dans les plus de villes, c'est plus de l'organisation familiale, amicale. Dans les grandes villes et les trois plus grandes villes, qui sont Gap, Embrun et Briançon, on a des petits réseaux structurés qui sont parfois aussi juxtaposés avec des arrivées extérieures. Et on a vu des connexions avec Grenoble, parfois avec Marseille, parfois avec la région parisienne. Et il faut, c'est à nous aussi d'être très proactifs sur des sujets. Vous savez que c'est une de mes priorités. Moi, je veux mener une vraie stratégie, une vraie guerre contre le trafic de stupéfiants, parce que j'en connais tous les dangers. Et je le répète à chaque fois, pourquoi on lutte contre? Parce que c'est générateur de violence, premièrement, et d'autre part, parce que c'est un problème de santé publique. Et il faut rappeler que l'usage de stupéfiants est non seulement interdit et prohibé par la loi, mais également signe de dérive pour ceux qui en consomment.
Mais lutte contre qui? Contre les vendeurs ou contre les vendeurs et les consommateurs?
Elle est parallèle, c'est la rencontre de l'offre et la demande. Si on ne travaille que sur l'offre et pas sur la demande, je crois qu'on manquera finalement un petit peu de profondeur dans notre action. Après, s'attaquer aux consommateurs, on peut assécher le trafic. Il suffit de se mettre dans une cité et de plus faire entrer un consommateur et un acheteur, vous assécher le trafic. Ça peut se mener, mais il faut aussi qu'on ait des enquêtes plus approfondies pour remonter les réseaux et notamment les livraisons. Parce que avant la vente, il y a une livraison de produits qui arrive dans le département et c'est peut-être là qu'il faut qu'on s'améliore.
Vous aviez annoncé il y a quelques mois en arrière que les voyants étaient rouges au niveau de la délinquance. L'activité du parquet avait été extrêmement accrue. En 2021, j'avais ce chiffre, 250 ans d'emprisonnement avaient été prononcés. Si on met toutes les peines additionnées, contre 165 en 2020. Et 2022?
Alors 2022, on est sur une augmentation qui est quasiment similaire sur le nombre de peines d'emprisonnement prononcées à 8 mois, puisque les dernières statistiques consolidées sont au mois d'août. Après, on atteindra bien évidemment un plafond de verre, il ne faut pas non plus se leurrer. La délinquance, quand on analyse ces statistiques, il y a deux façons de la voir. Est-ce que finalement elle progresse ou est-ce que par la stratégie qu'on mène, on arrive à la constater plus souvent. C'est simple, si vous mettez plus de policiers et plus de gendarmes sur le terrain, forcément vous constatez plus de délits et donc il y a une augmentation de la délinquance. Oui. Moi, ce qui m'intéresse dans ces chiffres, c'est aussi de voir que dans la politique pénale que le parquet mène, elle est plutôt agressive, cette politique pénale, c'est-à-dire qu'on veut s'emparer de tous les sujets de délinquance. Et quand on a une vraie dynamique, comme c'est le cas avec des policiers, des gendarmes et douaniers qui vous suivent, forcément, on sort des affaires plus souvent.
La délinquance est multiforme, c'est-à-dire qu'on peut la trouver, en effet, vous l'avez dit, dans les cités, par exemple. Pour les réseaux de stupéfiants, il y a les violences intrafamiliales, conjugales également, on en a extrêmement parlé. Il y a aussi votre lutte que vous menez à la frontière contre les réseaux de passeurs. Aujourd'hui, vous mettez l'accent sur quel point?
Tous, parce que, bien évidemment, il y a, derrière chaque dossier, il y a une victime. Il ne faut jamais l'oublier. Quand on définit une priorité de politique pénale, ce n'est pas pour ces raisons-là qu'on oublie les infractions qui sont moins nombreuses et qui existent. Mais il faut aussi que la réalité de la politique pénale, elle s'adapte au territoire. Et il y a des violences intrafamiliales qui augmentent, ici comme ailleurs, et là pour le
combien
coup... Combien? On a été sur des augmentations à deux chiffres au cours des deux dernières années. Alors, on n'a pas encore de bilan pour 2022, oui. mais on a parlé d'une meilleure révélation des faits pendant deux années. Il y a aussi une augmentation des faits, tout simplement. Et là, il faut que la société tout entière se pose des questions, parce que la justice, elle est là pour répondre à l'acte de délinquance, mais elle n'est pas là pour l'anticiper.
Pour le prévenir.
Exactement. Et même si la réponse pénale, la fermeté, peut prévenir la récidive des auteurs, mais on se rend compte, et ça c'est une étude nationale, que sur les féminicides qui sont constatés chaque année, la moitié des auteurs n'ont jamais commis de violence avant. Donc finalement... comment être en mesure de prévenir ce passage à l'acte? Alors, l'éducation, ramener peut-être l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, ce ne sera pas tout de suite, mais ce n'est pas parce qu'il y a encore des échecs qu'il faut abandonner le combat.
Et les réseaux de passeurs aujourd'hui?
Alors, les réseaux de passeurs, moi, je le dis et je le réaffirme, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui font rentrer illégalement les personnes en France. Parce que ces personnes-là, elles profitent de la vulnérabilité, de la faiblesse de ces passeurs. Lorsqu'on prend le chemin et le parcours qu'ils doivent mener pour arriver jusqu'en France, ou ailleurs, parce que c'est pas toujours le lieu de destination en France, on se rend compte qu'ils sont complètement dépouillés. C'est une vie qu'ils laissent.
Le préfet Dominique Dufour disait, ce sont des mafieux, je le dis très clairement, ce sont des mafieux.
Oui, ce sont des mafieux dans le sens où ils profitent de la vulnérabilité, mais il faut quand même rester mesuré, pas démanteler de réseaux extrêmement organisés et structurés dans les passeurs. Et peut-être là encore aussi on doit progresser, mais on voit que très souvent, les dossiers ils se ressemblent tous. Hein. Les migrants sont pris en charge à la gare de Turin, à la gare de Milan, tout simplement parce qu'il y a un intermédiaire leur dit de se rendre là, et puis nous on interpelle le passeur, mais on ne remonte pas la filière. Alors la coopération avec l'Italie, la coopération policière, judiciaire, peut-être nous améliorera dans la progression.
Ce que j'allais dire, est-ce que vous allez coopérer avec justement les différents acteurs judiciaires du côté de l'Italie?
Oui, alors je l'ai fait. Moi, je me suis déplacé à Turin pour rencontrer la procureure. On essaie de collaborer, mais c'est pas si facile. Finalement, c'est un peu le même problème que peut-être mes collègues de Boulogne ou Dunkerque ont avec les pays anglo-saxons. L'Italie, bien évidemment, elle veut collaborer, mais à partir du moment où les migrants sortent de chez eux, la fermeté qu'ils vont afficher pour mener des enquêtes là-bas, ce ne sera pas la même que nous qui sommes à l'arrivée. Donc c'est du travail aussi peut-être de coopération policière, parce qu'il faut que les enquêteurs français puissent aller en Italie pour observer comment les réseaux s'organisent. C'est peut-être là qu'on pourra progresser.
Vous avez participé cette semaine à une réunion en préfecture au sein de la cellule départementale de suivi pour la prévention et la radicalisation et l'accompagnement des familles, c'est son nom. On a beaucoup parlé des phénomènes de radicalisation en 2015 après les attentats. Aujourd'hui, on en est où?
Alors, dans le département des Hautes-Alpes, comme ailleurs, le sujet de la radicalisation violente est une vraie préoccupation. Et sous l'autorité du préfet, parce que le procureur ne co-préside pas ces cellules, il y a une vraie action qui est menée au quotidien. Mais il faut aussi relativiser la dangerosité des personnes qui sont suivies, et peut-être que les personnes que nous suivons dans les Hautes-Alpes ne seraient pas suivies dans des départements tels que celui des Bouches-du-Rhône ou
d'Isère. On n'est pas mis au même endroit.
Ouais, exactement. Mais tant mieux, parce que ça amène finalement un suivi un peu plus approfondi. Le sujet de la radicalisation, il est protéiforme, c'est-à-dire que dès le départ, on avait parlé de radicalisation religieuse, parce que c'était ça la préoccupation, et en réalité, on voit que les radicalisations, elles peuvent prendre d'autres formes, et lorsqu'on remonte même à l'origine de la terreur, elle n'est pas forcément religieuse, et le terrorisme aujourd'hui, tel que l'infraction l'englobe, a un champ d'intervention très large.
J'aimerais avoir votre avis en tant que procureur sur le dossier de la chasse. Le Sénat estime aujourd'hui qu'on devrait interdire les alcools et les stupéfiants pendant la chasse. Et vous?
Alors, moi, je dis que pourquoi il est interdit de conduire un véhicule en étant alcoolisé ou sous l'empire de stupéfiants, et pourquoi quelqu'un qui est armé et donc potentiellement dangereux ne devrait pas être de ces mouvements? Pourquoi l'alcool et les stupéfiants sont dangereux lorsqu'on a une activité humaine? Parce qu'on peut perdre un certain nombre de nos contrôles. Et c'est la même chose lorsque vous êtes une activité, même sportive. Vous êtes en montagne, vous êtes sous stupéfiant, le risque de chuter est plus important que lorsque vous ne consommez pas. Donc, je pense qu'il faut mener une vraie réflexion. Il y a une vraie attente là-dessus de la population et des concitoyens sur ce sujet. Il faut dire que dans les Hautes-Alpes, la fédération départementale mène une action assez, assez forte en termes de sécurité. On a signé un certain nombre de partenariats, notamment un stage de sensibilisation au danger de la chasse pour les infractions qui ne causent pas de préjudice. On a eu quelques accidents, mais plutôt légers. Et je pense qu'il faut peut-être renforcer. Et on voit qu'aussi les chasseurs sont peut-être montrés du doigt et que peut-être en montrant qu'eux aussi sont conscients de ces enjeux, ils tireraient profit.
Merci Florent Cruy d'avoir été avec nous ce matin, procureur du parquet de Gap.